Le songe, le monde du rêve.
Je suis un quoi?
Tu es un vortex de rêve, Rose Walker.
Et vous me dites que c'est parce que je suis un vortex ou un foutu je ne sais quoi que vous allez me tuer? C'est bien ce que vous dites?
Oui. C'est ce que j'ai dit.
Vous plaisantez, j'espère. Vous m'avez sauvé la vie, dans cet hôtel de barge avec ce groupe psychopathe. Vous m'avez sauvé la vie. Et voilà que vous voulez me tuer? C'est une blague, hein? Non. Non, c'est pas une blague. Vous voulez me tuer. Et dire que je... Vous savez, pendant une seconde, j'ai vraiment eu la trouille. Mais ce n'est qu'un rêve, alors... Alors, pas de panique. Tôt ou tard, je vais me réveiller. Et là, je descendrai pour raconter à Al ce rêve de dingue. Et il sera mort de rire. Et moi aussi.
Rose, je suis désolé, mais tu fais erreur. C'est vrai. C'est un rêve. Mais un rêve dont tu ne te réveilleras pas. Ni maintenant, ni jamais. Rose?
Non, ça va. Je vous crois. Je me voilerai la face en refusant cette réalité. Je n'y comprends rien, mais c'est réel. Dites-moi juste une chose.
Quoi?
Pourquoi moi?
The Sandman. Cœur perdu.
Je ne reconnais plus rien. Le monde du rêve a bien changé en 50 ans, Matthew.
Si vous le dites.
Il faut se dépêcher, Matthew.
Vous croyez pouvoir l'empêcher de faire du mal à cette fille?
Non. Je ne pense pas.
Hein? Alors qu'est-ce qu'on fait là? Je voudrais pas mettre le chef en rogne.
Je ne pense pas y arriver. Mais je peux espérer et prier. Et de toute façon, notre Seigneur sera déjà furieux contre moi, parce que j'ai abandonné le songe. Je ne peux rien faire de pire.
Alors comme ça, vous étiez une pointure dans le songe avant.
Attendez, attendez, laissez-moi reprendre mon souffle.
Le pré du violonneux, drôle de nom. Qui étiez-vous?
Qui? Mon cher oiseau, il semble que vous soyez victime d'un malentendu. La question n'est pas qui j'étais, mais quoi. Je n'étais pas une personne, Mathieu. J'étais un lieu. Pressons-nous, cher ami. Le temps se rafraîchit. Nous ne sommes plus très loin.
À chaque air apparaît un vortex. Même moi, j'en ignore la raison. Un mortel qui devient brièvement le centre du songe. Le vortex, par sa nature même, fait tomber les barrières entre les esprits qui rêvent. Il détruit le chaos organisé du songe, jusqu'à ce que les myriades de rêveurs soient pris dans un seul énorme rêve, et que tous les rêves fusionnent. Alors, le vortex s'effondre sur lui-même, et finit par s'évanouir.
Et donc, le problème disparaît.
Le vortex emporte les esprits des rêveurs, infligeant aux songes des dégâts irréparables. Il ne laisse que des ténèbres. Mon devoir est d'empêcher que cette catastrophe se produise encore.
Encore?
C'est déjà arrivé. Un monde a été perdu, Rose Walker. Il y a très longtemps, à une moitié d'univers d'ici, j'ai failli à mon devoir. Un monde entier a péri. Ils sont tous morts. Ça n'arrivera plus jamais.
Mais si vous régnez sur ce lieu, vous ne pouvez pas... Je ne sais pas, retirer ce que j'ai en moi, par magie, je ne sais pas, moi, simplement l'empêcher d'arriver.
Je suis le seigneur de ce royaume, et ma volonté prime sur tout. Mais je ne suis pas omnipotent. Tu es en vie, Rose Walker, et tu es un vortex. Et seule la mort du vortex assurera la sécurité du songe. La mort n'est pas toujours une mauvaise chose, Rose. Tu pourrais rester ici, dans le songe. Certains mortels ont cette chance. Mon corbeau, Matthew, était un mortel, naguère.
Je ne veux pas mourir.
Je regrette, Rose.
Oh, Rose Walker, vous êtes là.
Gilbert!
C'est moi.
Oh, Gilbert, Dieu merci, vous voilà. Cet homme dit qu'il va me tuer.
Je sais, Rose Walker.
Près du violonneux.
Oui, Seigneur.
Pourquoi es-tu parti? Je te faisais confiance. Je comptais sur toi. Tu ne m'avais jamais trahi. Tu étais le cœur du songe.
Je suis parti par curiosité. Et parce que j'étais fatigué. La vie d'un humain est faite de choses qui dépassent tout ce dont j'avais pu rêver dans le songe. Les petites joies, les petites déceptions. J'avais mes raisons. Mais peu m'importe. Cette femme, Rose Walker. Seigneur, je vous offre ma vie en échange de la sienne.
C'est impossible. Elle doit mourir pour assurer la survie du songe.
Non.
Je suis désolé.
La chambre d'Unity dans sa maison de retraite. En Angleterre, à l'aube.
Je suis désolée, Miranda. Je ne crois pas avoir été... une bonne mère.
N'y pensez pas, Unity. Mère, tout ira bien, tu verras.
Je crois que je vais dormir maintenant.
Unity Kincaid a de plus en plus de mal à rester en vie. L'existence est si... Unity entend une voix, sa propre voix, murmurer dans l'obscurité. Elle lui parle de sa vie avant le long sommeil. Quand elle était enfant et rêvait d'un grand homme ténébreux, aux yeux vifs comme deux étoiles jumelles. Elle lui dit la vérité. Unity s'abandonne au sommeil. Son souffle ralentit, puis s'arrête. Elle meurt dans un monde qu'elle comprend enfin. Unity rêve.
Bonjour, patron.
Matthew, tu as donc ramené le prêt du violonneux. Tu as fait du bon travail.
Gilbert?
Oui, Rose.
Vous ne pouvez vraiment rien faire pour l'arrêter?
Non. Non, il ne peut rien faire. Prêt du violonneux, je n'ai pas le cœur à te punir d'être parti. Pas maintenant. Cependant, il est temps pour toi de reprendre tes attributions.
Dites, mademoiselle Walker, croyez-moi, la mort, c'est pas si terrible. On s'y fait. Regardez-moi. Bon, remarquez, j'avais une vie pourrie. Hein.
Faites vos adieux.
Je vous dois des excuses, mademoiselle Walker, pour ma piètre performance en tant qu'humain. Ou plutôt, en tant que pâle imitation d'un être humain. À cet instant, quand vous avez vraiment besoin de moi, je suis incapable de vous aider.
Oh, arrêtez ces bêtises et dites-moi au revoir ou je vais fondre en larmes. Et je ne veux pas lui donner cette satisfaction.
Adieu, ma chère. Laissez-moi baiser votre main. Vous avez... illuminé ma vie d'humain. Après votre mort, si vous restez dans le songe, venez me rendre visite. Marchez dans mes prairies et mes vertes clairières. Vous reposez sous mes arbres.
Instantanément, le paysage brutal et escarpé où le rêve a conduit Rose se transforme en une prairie idyllique, cernée d'arbres et de montagnes. Des fleurs s'épanouissent partout. Morphée et Rose n'ont pas bougé d'un pouce. Perché sur un buisson, Mathieu regarde autour de lui d'un air émerveillé.
C'est donc ça, le pré du violonneux. Joli coin.
Morphée a troqué sa cape contre un manteau. Le vent s'y engouffre, dévoilant un jean noir et des bottes noires. Il est torse nu, comme le veut la tradition des bourreaux.
Je suis désolé, Rose. N'y vois rien de personnel. Nous avons tous des responsabilités. Et ça, c'est la mienne. Je regrette.
Oh, bon sang ! Écoutez, faites-le ! Arrêtez de vous excuser et faites ce que vous avez à faire ! D'accord ? Faites-le !
Arrêtez !
La voix est celle d'une jeune femme, vêtue d'une chemise de nuit en dentelle totalement désuète. Rose a l'impression de la connaître. Elle a le sentiment de voir son propre reflet dans un miroir.
Ce n'est pas Rose qui mourra ce soir, mais moi. Bonjour, Rose.
Bonjour. On se connaît ?
Ah, c'est vrai. J'ai changé depuis le temps. C'est fou tout ce qu'on oublie. Je suis ta grand-mère, Rose. Je suis Unity.
Unity ? Oh,
quel endroit merveilleux !
Oui, c'était un de mes amis.
J'ignore qui tu es, mais je te demande de quitter les lieux. J'ai une affaire à régler avec cette femme.
Non. Vous ne m'avez pas entendu ? C'est à moi que vous aurez affaire, pas à elle.
Rose est un vortex.
Peut-être. Mais c'est moi qui aurais dû l'être. Si vous n'aviez pas été retenu captif loin du songe, c'est moi qui l'aurais été.
Je ne comprends pas.
Évidemment. Vous n'avez pas l'air très malin, mais ce n'est pas grave. Viens là, ma petite fille. Rose, un jour je t'ai offert une bague. Maintenant, j'aimerais que tu fouilles en toi et que tu me donnes ce qui fait de toi le vortex.
Pardon ?
Donne-moi ton cœur.
Mon cœur ?
Rose, je suis mourante. Le temps presse. Tu es en train de rêver. Tout est possible. Fais-le.
Bon, d'accord.
Rose se concentre, ferme les yeux, lève la main et, sans la moindre difficulté, la plonge dans sa cage thoracique.
Oh. Je le sens. Je l'ai.
Elle retire la main. Elle tient un cœur. Pas un cœur humain, mais quelque chose qui ressemble à une pierre précieuse, d'un rouge profond qui luit au soleil.
Ça ?
Merci, Rose. Je vais le prendre. Maintenant, roi du rêve, c'est moi le vortex. Comme j'aurais dû l'être il y a si longtemps. Je suis le vortex. Et je suis...
Je suis...
Unity ?
Oh.
Unity.
Quoi ? Oh. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Vous êtes morte. Prenez ma main, levez-vous.
Oh. Oh. Merci.
Je ne comprends pas. Je suis désolée. Vous allez quand même me tuer ?
C'est inutile, Rose Walker. Moi non plus, je n'y comprends pas grand-chose. Mais le vortex a disparu.
Disparu ?
Pars maintenant, petite. Je ramènerai ton frère des rives du rêve. Il reviendra à lui dans la matinée. Considère cela comme un cadeau de ma part. Ta famille a assez souffert. Au revoir, Rose Walker.
Et elle se réveilla.
Oh. C'était il y a 6 mois. Que s'est-il passé depuis ?
Rose est assise dans la chambre de la maison qu'elle partage avec sa mère et son frère. La chambre est plus grande que celle qu'elle occupait chez Al. Elle a même sa propre salle de bain. Le sol est jonché de gobelets de café broyés et de 2 CD hors de leur boîtier. The Idiot, d'Iggy Pop, et The Trinity Session, des Cowboy Junkies. Rose est plus à l'aise financièrement ces derniers temps.
J'ai reçu une lettre de Al la semaine dernière. Il vend sa maison pour s'installer à l'ouest. En lisant entre les lignes, je crois qu'il a rencontré quelqu'un, même s'il ne l'a pas dit ouvertement.
La maison de poupée qui appartenait à Unity est posée à côté d'elle, sur sa table.
Il dit que Ken et Barbie ont rompu. Ken s'est trouvé quelqu'un d'autre. Une autre Barbie en version plus jeune. Et Barbie semble avoir pété les plombs. Il n'est pas entré dans les détails. Elle est partie s'installer chez des amis à Manhattan. Les femmes araignées vont lui acheter sa maison. Il dit que Zelda lui a même parlé l'autre jour.
Les livres, empilés près du lit, ont accompagné Rose pendant les 6 mois où elle s'est coupée du monde. Au loin, on en distingue les titres. L'Empire des Fous, Nous avons toujours habité le château, Flamme d'enfer, Histoire à dormir debout d'un antiquaire et Un lointain miroir. Les ouvrages sont bourrés de notes et de marque-pages.
Personne n'a revu Gilbert. Nous habitons une grande maison que maman a achetée en banlieue de Seattle, où elle a grandi. Vous n'imaginez pas tout l'argent qu'on a. Je n'ai jamais connu quelqu'un d'aussi riche que grand-mère. Bizarre, hein? Tout ce fric pour passer à côté de sa vie. Elle...
Rose se coupe les cheveux. La couleur s'est bien estompée, de toute façon. Un paquet de teintures traîne dans le placard de sa salle de bain depuis un bout de temps.
Je ne sors pas beaucoup. Sois lucide, Rosalita. Sois honnête. Personne ne lira jamais une ligne de ce que tu as écrit dans ce journal. Ok. Depuis qu'on a emménagé ici, il y a des mois, je ne suis pas sortie de ma chambre. Sauf pour manger, tard le soir, quand Jed et maman sont endormis. Je lis, j'écoute de la musique, et parfois je reste assise, les yeux dans le vague. Je tiens ce journal, si on peut appeler ça comme ça. Je réfléchis. Il y a un an, ma meilleure amie est morte. Elle s'appelait Judy. Elle a été tuée, ou peut-être qu'elle s'est suicidée, au cours d'un massacre dans le diner d'une petite ville. Le jour de sa mort, Judy m'a appelée. Elle venait de se séparer de sa copine Donna. Et elle était dans un sale état. Je pense beaucoup à Judy.
Elle lève les yeux vers une coupure de journal épinglée à son tableau d'affichage. En gros titre, on peut lire « L'énigme sanglante des 6 morts du diner ». Au-dessous, on aperçoit des photos piquetées de Judy Talbot, Betty Monroe, Gary Fletcher, Kate Fletcher, Mark Brewer et Marsh Janowski.
Si seulement je pouvais parler de tout ça à Judy. Gilbert, mis à part, c'était la personne la plus intelligente que je connaisse. Mais je ne peux pas leur parler. Plus maintenant.
Elle marque une pause, fixe à nouveau le tableau. On y remarque la photo usée d'un Anglais à la forte carrure, affublé d'une moustache à la gauloise et d'un monocle. Il est vêtu d'un costume en tweed et s'appuie sur sa canne. La légende indique « G.K. Chesterton ». 1874-1936. C'est le portrait craché de l'homme que Rose appelait Gilbert.
Il y a 6 mois, j'ai fait un rêve étrange. C'était la nuit où Unity est morte et où Jed s'est réveillé. Si mon rêve était réel, et je n'en ai que de vagues souvenirs, des bribes, sans queue ni tête, alors que tout me paraissait clair à l'époque, alors plus rien n'a de sens. Si mon rêve était réel, alors tout ce que nous savons, tout ce qu'on croit savoir, est un mensonge. Ça veut dire que le monde est à peu près aussi fiable et solide que l'écume à la surface d'un puits sans fond. Et qu'il se trouve des choses dans ses profondeurs auxquelles je ne veux même pas songer. Non, ça ne veut pas dire que ça. Ça veut dire que nous ne sommes que des poupées. Que nous n'avons pas la moindre idée de ce qui se passe. On s'imagine qu'on contrôle nos vies, alors que tout près de nous, des choses qui nous rendraient fous si on y pensait trop longtemps nous manipulent, nous déplacent d'une pièce à l'autre et nous rangent pour la nuit quand elles sont lasses de jouer ou fatiguées. Dans mon rêve, j'aurais pu détruire tous les habitants de ce monde. Dans mon rêve, Gilbert n'était même pas un homme, mais un lieu. Dans mon rêve, grand-mère Unity se sacrifiait pour moi. Les rêves sont étranges et stupides. Ils me font peur. Ça fait 6 mois que je dors mal. La maison est sympa. Trop grande, mais ça me va. Comme ça, je limite mes interactions sociales au strict nécessaire. Voilà. C'est mon histoire. Et en plus, elle se finit bien. Jed, Rose et leur mère furent enfin réunis. Et ils vécurent tous dans une grande et vieille maison. Je rumine cette nuit depuis trop longtemps. 6 mois. Et j'ai décidé que mon rêve bizarre, n'était qu'un rêve. C'est tout. Juste un rêve. Et elle se réveilla. J'ai toujours détesté les histoires qui se terminaient comme ça. Je me sentais toujours frustrée. 6 mois à s'apitoyer sur son sort, ça suffit, non? On ne peut pas se sentir frustrée éternellement.
Tiens, une revenante.
Salut, Rose!
Salut.
Sympa, ta coupe. Très jolie.
Oui, oh, merci. J'avais envie de changer de tête.
Alors, qu'est-ce qu'on fait?
Je sais pas. Mon retour parmi les vivants, j'imagine. Je peux pas rester cloîtrée toute ma vie. Je me suis dit que j'allais chercher un boulot ou voyager un peu. Retrouver de vieux amis.
C'est une bonne idée. On s'inquiétait pour toi.
Ouais. Désolée.
J'ai trouvé une renarde dans les bois. Avec ses petits. Je peux te les montrer, si tu veux.
Ouais, ce sera cool.
C'est par là.
Ok. Et elle se réveilla. J'imagine qu'il y a pire comme fin.
Morphée, seigneur du royaume du rêve, est assis dans la salle du trône de son château. Portant sa cape de velours la plus imposante, des bottes noires et une ceinture en cuir noir, une tenue de circonstance, il descend les marches et se dirige vers la porte du fond qui mène à sa galerie. Cette salle contient les emblèmes de chaque membre de la famille de Morphée, les Infinis. Le maître des rêves vient se poster devant le cœur d'argent, qui représente le désir. Il s'en empare.
Désir, je suis dans ma galerie et je tiens ton emblème. Réponds-moi.
Le désir apparaît sur le mur du fond, comme à travers une porte.
Tiens, ce cher rêve, quelle surprise, presque un événement, oserais-je dire.
Te voilà, je te rejoins.
Ah bon? Oh mais bien sûr.
Tu sais que tu es toujours le bienvenu dans mes quartiers. C'est un plaisir de te voir. Que puis-je pour toi? Qu'est-ce que tu désires?
Je n'ai rien à te demander, hormis quelques réponses. J'ai repensé à certains événements de cette dernière année, et j'en suis arrivé à des conclusions peu réjouissantes.
Vraiment?
Unity Kincaid aurait dû être le vortex de rêve de cette ère, mais ça n'a pas été le cas. Le vortex a été transmis par le biais de sa lignée génétique à sa petite-fille, Rose Walker.
Je vois.
C'est une situation inédite à ma connaissance. Quelqu'un s'est immiscé dans mes affaires, Désir, et cette affaire porte ta signature.
Tu m'accuses d'avoir empiété sur les plates-bandes d'un membre de la famille?
Effectivement, c'est ce que je pense. Et ce n'est pas la seule accusation que je porte contre toi.
Je t'écoute.
Désir, qui était le grand-père de Rose? Qui a engendré sa mère pendant le sommeil d'Unity, il y a 50 ans?
Ça s'est vu tant que ça?
Non, pas du tout. Tu as très bien couvert tes traces. Quelle était ton intention véritable? Étais-je censé ôter la vie d'un des nôtres, avec tout ce que ça implique? Ou était-ce encore plus machiavélique?
Quelle importance, grand frère, ça n'a pas marché.
Désir, si tu n'étais pas de ma famille...
Mais je le suis.
Oui. Oui, c'est vrai. Désir, écoute-moi bien. Et souviens-toi d'une chose. Nous autres infinis sommes les serviteurs des vivants. Nous ne sommes pas leurs maîtres. Nous existons parce qu'ils savent tout au fond d'eux que nous existons. Lorsque le dernier être vivant aura quitté cet univers, alors notre tâche sera terminée. Et nous ne les manipulons pas. Au pire, ce sont eux qui nous manipulent. Nous sommes leurs jouets. Et toi, et Désespoir, et même ce pauvre délire, vous ne devez pas l'oublier.
Je ne comprends pas.
Je le constate, et je le déplore. Très bien. Je vais te dire les choses de manière plus claire, frère-sœur. Cherche encore à te jouer de moi ou des miens, et j'oublierai que tu es de ma famille, Désir. Te crois-tu assez fort pour te dresser contre moi? Contre la mort? Contre le destin?
Non.
Ne l'oublie pas. La prochaine fois que l'envie te prendra de te mêler de mes affaires, ne l'oublie pas.
Le désir arpente les appartements de la forteresse de son cœur, parcourt les couloirs du seuil, sa citadelle et sa protection. Et le désir se demande...
Qu'entend-il par « nous sommes leurs jouets » Les humains sont des êtres de désir. Je peux les modeler à volonté. Si je pensais autrement, je craquerais comme délire ou j'abandonnerais mon royaume comme notre frère disparu. Pauvre rêve, je l'ai vraiment mis hors de lui cette fois.
Et le désir sourit. Et oublie. Car le désir est une créature de l'instant. Et le désir parcourt les sentiers infinis du seuil, persuadé qu'il, ou elle, ou eux, peu importe, est le seul et unique maître de son destin. L'unique habitant du royaume crépusculaire du désir. Et à ses yeux, le désir n'a rien d'une poupée. Non, strictement rien d'une poupée.